Racontez-vous.
Racontez-vous. Une émission de Franck Dumouya et Anne-Claire Rebibeau.
Racontez-vous. Deuxième émission de Racontez-vous. Je vous rappelle le principe de Racontez-vous, c'est d'aller à la rencontre de personnages qui, en apparence, ont l'air de monsieur et madame tout le monde. Ils le sont, bien évidemment, mais derrière, ils ont une singularité, que ce soit une passion ou un événement de vie qui les a marqués. Et oui, parce que est-ce que nous croyons connaître aussi bien que ça nos proches, nos voisins, nos collègues, nos amis? Pas évident. Racontez-vous se propose de vous faire découvrir le trésor des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marcel Pires. Il habite un petit village de Seine-et-Marne qui s'appelle Gouverne, au fond d'une impasse. Il y est installé depuis des années. Il est marié, père de 4 enfants. Il est conducteur principal de travaux. Donc vous voyez un père de famille, un homme tout à fait normal. Mais Marcel a une passion qu'il partage d'ailleurs avec des milliers et des milliers d'autres à travers le monde. Cette passion a un nom, un prénom. C'est Napoléon Bonaparte.
Demain matin, quand tu sortiras,
oui,
tu m'achèteras un livre.
Et lequel?
La vie de Napoléon.
Le souvenir de Napoléon, je pense qu'il est arrivé à l'adolescence, après l'adolescence. En début des années, quand j'avais 18 ans, quoi, peut-être, 18-20 ans.
Il n'y avait pas dans ta famille un historien, un passionné de Napoléon, quelqu'un qui avait justement des attirances par rapport à l'histoire?
Non, pas du tout, non. Mais c'est suite à la lecture sur un article de Napoléon, sur un journal lambda, et après je me suis intéressé vraiment à acheter de plus en plus de livres sur Napoléon et sa vie.
Est-ce que tu te rappelles un petit peu de cet article?
Oui, c'était un article sur le management et comment Napoléon manageait ses hommes à la guerre, ses grognards. Et c'est vrai que ça m'a surpris parce que c'était quand même un petit bonhomme et il est parti de pas grand chose et il a réussi à être là où il était. Et donc c'est vrai que ça m'a inspiré et puis ça m'a aussi donné un peu plus confiance dès lors où on sait qu'une personne comme ça qui vient de nulle part a réussi à faire ce qu'il a fait, ce qu'il était. À partir de là, on se dit tout est possible.
Tu es en train de dire que peut-être à l'époque, tu manquais un peu de confiance en toi? En lisant cet article, tu t'es dit, mais un petit bonhomme comme lui, qui a réussi, pourquoi pas moi?
Exactement, ouais, c'est aussi puis s'inspirer de la personne ou comment, avec pas grand-chose, et puis en étant qu'un seul et simple être humain, on peut devenir une si grande légende où 200 ans après, il y a toujours un livre, 6 livres, je crois, par jour qui sort de lui. Donc c'est quand même une grande légende, et donc je me suis dit... Pourquoi pas essayer pas de devenir une légende comme Napoléon, loin de là. Mais au moins, je me suis dit, voilà, ça m'a inspiré pour essayer de me construire peut-être et puis pour prendre un peu plus de confiance en moi. Ouais.
Je crois que c'est le premier qui arrive au gouvernement. Avant, ce n'était que des rois, donc c'était de père en fils. Et donc, c'est lui le premier qui arrive à la sueur de son front. Est-ce que c'est ça aussi qui fait cette particularité de ce personnage qui est mondialement connu, comme tu dis, 200 ans après sa disparition?
Oui, tout à fait, c'est exactement ça, parce que on l'attendait, on le connaissait de nulle part, et on ne l'attendait pas du tout, et lui, il a réussi à arriver, à prendre sa place, et à s'imposer face à tous, quoi. Lui est arrivé, et a réussi à instaurer un empire, et qui a continué après sous Napoléon III. Donc c'est vrai qu'en partant de pas grand-chose, on arrive à construire quelque chose, quoi. Alors c'est bien beau d'être un bel orateur, mais il faut réussir à convaincre tout le monde et emmener tout le monde derrière lui. Lui, c'est ce qu'il a réussi à faire aussi, notamment au retour des 100 jours, quand il avait perdu le pouvoir et qu'il est revenu le chercher et que tout le monde voulait lui bloquer la route. Et lui, il arrivait et il a dit, face à ses anciens soldats qui étaient sous la royauté à cette époque-là, il a dit, bah, suivez-moi. Et du coup, ils ont tous retourné leurs fusils contre le roi plutôt qu'avec contre lui. Avec cette force à fonder puis à souder tout le monde. Donc c'est vrai qu'à partir de là, quand moi après par la suite j'ai créé aussi une société, bah, c'est vrai qu'on se dit bah, comment on fait pour souder tout le monde, comment on fait pour emmener les hommes avec nous. C'est vrai que ça donne une espèce d'inspiration et une force en se disant waouh, wow, on peut réussir à emmener tant d'hommes derrière nous. Donc voilà, c'est ça.
Donc quand tu as créé cette société, tu pensais à Napoléon et quand tu étais face à tes employés, tu pensais aussi comment aurait fait Napoléon à ma place ? Comment ça se passait justement ?
Pas forcément comment Napoléon aurait fait à ma place ou comment il l'aurait fait ou quand je m'en serais sorti ou comment il s'en serait sorti, pardon. Mais plus dans le sens où oui, je pense à sa manière de réussir à souder les gens et à les emmener avec lui dans une société. C'est très difficile aussi dans le sens où pour le travail, il faut que les gens soient convaincus pourquoi ils travaillent, et soyez soudés tous ensemble dans le sens où il faut finir tous les travaux qu'on a à faire et non pas tout le temps en train de travailler un petit peu, puis histoire de dire, bah voilà, j'ai mon salaire à la fin du mois et tout le reste, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéressait dans le personnage et puis dans ce que j'ai pu m'en inspirer quand j'avais la société, c'était le fait justement de pouvoir souder les personnes qui travaillaient avec moi et pouvoir leur dire, on est tous ensemble, on est tous dans la même barque et on y va tous ensemble, quoi.
Mais tu mettais ta main comme ça dans ton gilet quand tu leur parlais ?
Non, je mettais pas la main. Je me prenais pas pour lui non plus, mais je m'inspirais de lui, ouais. Mais pas la main. Peut-être les deux mains derrière le dos, mais pas la main dans le gilet.
Révélation intéressante. Voici un homme d'État qui a vécu il y a 200 ans, qui influe sur la vie d'un entrepreneur actuel. Marcel nous dit... Derrière lui, ces grognards étaient soudés. Que Napoléon soit un personnage controversé, et nous y reviendrons, je pose la question à Marcel un peu plus loin dans l'émission, je me pose la question, est-ce que nos présidents actuels auront une même influence sur les hommes de demain ? À vous d'y répondre. En attendant, continuons l'exploration de cette passion de Napoléon. Et après, petit à petit, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir vivre cette passion ?
Ben, j'ai commencé à acheter un livre qui était sur la vie de Napoléon. Ça s'appelait Napoléon, tout court. C'était de Castello, qui m'a beaucoup plu. C'était un énorme livre et je me suis dit, waouh, moi qui ne lis jamais, j'arrive à lire tout ça en très peu de temps. Et bah, parce que j'étais vraiment inspiré et que j'étais passionné par ce livre. Donc j'ai dit, on va acheter le deuxième, qui était aussi un autre pavé et qui s'appelait Bonaparte cette fois-ci. Et pareil, toujours de Castello. Et là, pareil, j'ai commencé à lire et puis toute la vie, tous les récits, et ça m'a vraiment plu de ce qu'il a pu faire. Donc j'ai commencé à acheter de plus en plus de bouquins et lire tout ce qui se passait autour de Napoléon. Notamment son personnage avec la garde, avec ses gars, ses grognards, avec l'armée, mais aussi son côté avec les femmes qui me plaisaient parce qu'il avait un certain talent d'écriture. On ne pouvait pas dire que c'était un bel homme, mais il réussissait quand même de par son aura à amener pas mal de femmes chez lui et savoir parler aux femmes, notamment à Joséphine quand on lit les lettres de Joséphine. Ne m'embrasse pas parce que sinon tu vas brûler mon sang, ne serait-ce que cette phrase-là, c'est magnifique et il savait parler aux femmes. L'emprise qu'il avait sur pas mal de monde, c'est tout ça qui m'intéressait.
Ça veut dire que c'est Napoléon qui t'a appris à draguer ?
Non, Napoléon, je crois qu'il est venu bien après. J'ai commencé à draguer, je crois que Napoléon, j'y pensais même pas.
Dans sa vie, il a eu deux femmes, Joséphine et...
Marie Valesca.
Mais en même temps, paraît-il qu'il avait énormément de maîtresses.
Oui, Marie Valeska, c'était une de ses maîtresses, pardon. Et il y
C'est Marie
avait,
Louise.
oui, et Marie Valeska, c'était une femme qui l'aurait, je pense, voulu épouser, une femme polonaise, et qui ne l'a pas faite. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de femmes autour de lui dans toute sa vie, même si, apparemment, de ce qu'on peut lire, c'était pas un grand homme au lit, mais d'après ce qu'on peut lire, hein, après j'étais pas derrière les rideaux, mais voilà, c'est quelqu'un qui plaisait beaucoup aux femmes, et de par son statut, comme on peut regarder les hommes qui ont un certain statut, comme DSK par exemple, plaît beaucoup aux femmes.
Est-ce que tu as une collection d'objets? Est-ce que tu as des uniformes? Hormis les livres, qu'est-ce que tu as?
Collection d'objets, non, pas vraiment. J'ai peut-être deux, trois trucs comme ça. Par exemple, un bicorne que j'ai acheté. Mais sinon, collection d'objets, non, pas trop. Juste peut-être une ou deux statues comme ça que je mets, mais qui fait 10 cm d'eau. C'est des toutes petites statues. Et sinon, non, la plupart, c'est que des livres et des récits que j'achète.
Les statues, tu les mets au-dessus de ton lit, comme certains mettraient une Vierge ou un Christ?
Non, peut-être pas, non, je crois que sinon ma femme, elle les mettrait par terre. Ils sont juste au pied de mon bureau.
Donc le bicorne, c'était vraiment en relation avec Napoléon quand tu l'as acheté.
Oui, là par contre, moi j'aime de toute façon d'ordre général tous les anciens objets, donc c'est-à-dire même les meubles du 18e, 16e ou autre siècle, j'aime tout ce qui est ancien. Et une fois, je suis tombé sur une annonce, pour ne pas te citer Le Bon Coin, je trouve un bicorne daté des années 1800 à 60 €. Et là, je me dis, bah, la personne, elle a dû faire une faute, c'est peut-être 600 €. Puis j'appelle la personne, mais elle me confirme que c'est bien 60. Donc j'en revenais pas, avec une belle boîte en forme de bicorne aussi, de l'époque. Donc je lui envoie le chèque des 60 € et je reçois en échange le fameux bicorne dans sa boîte, et qui, à mon avis, vaut bien plus que 60 €.
J'avais entendu dire que tu avais acheté une peluche à ton fils.
Le jour où j'ai visité les Invalides, j'ai acheté effectivement pas vraiment une peluche, c'est un coussin où il y a le N de Napoléon avec la couronne de laurier brodée dessus. Et quand je l'ai ramené des Invalides, je lui ai donné, et à l'époque il devait avoir peut-être 2-3 ans. Et quand je lui ai ramené ça des Invalides, et ben il l'a gardé et c'est devenu son doudou. Il allait même à l'école sous le bras avec.
Et quand tu vas aux Invalides, qui est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu lui donnes un surnom à Napoléon quand tu vas là-bas?
Bon, ça m'est déjà arrivé, effectivement.
Ah, c'est quoi ce surnom?
J'ai dit, c'est papa.
Tu penses que c'est comme un père spirituel pour toi? Est-ce que Napoléon a ce rôle pour toi d'être un, je vais pas dire un second père, puisque là on rigole en disant que tu lui as donné ce surnom de papa, mais est-ce qu'il a ce rôle-là?
Oh, je pense pas non plus, mais dans le sens où effectivement, c'est quelqu'un de très présent. Pourquoi? Parce que je me suis, alors peut-être pas tout inspiré, mais j'ai puisé pas mal de choses chez lui pour essayer de comprendre le personnage, pour essayer de trouver. Pendant un moment, je lisais aussi pas mal d'articles sur le management, et à chaque fois, lui revient dans ces articles-là parce que à son époque, il a su manager quand même pas mal de pays. Du moins pas mal d'armées dans plusieurs pays différents.
Alors là, je vais poser une question un petit peu psychologique, mais tu as connu ton père?
Oui.
Donc c'est pas un père de substitution, Napoléon.
Non, 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 non,
Absolument pas.
non.
À ce stade de l'émission, il me semble intéressant maintenant d'écouter Gaïd, la femme de Marcel, qui répond à la même question que je viens de poser à Marcel.
Je suis intéressée par l'histoire d'une manière générale, la généalogie en particulier, la petite histoire dans la grande histoire. Par contre, son intérêt qui s'est dévoilé pour Napoléon m'a incité, moi, à m'intéresser au personnage et à lire les bouquins qu'il avait lus ou qui s'étaient achetés en prévision de les lire. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est m'intéresser au personnage sur lequel je ne portais pas particulièrement d'intérêt spécifiquement, puis découvrir le personnage en tant que tel, son parcours, les autres personnages qui gravitaient autour, sa femme par exemple, en tout cas sa première. J'ai lu L'Aiglon aussi de Castello. Donc non, ça m'a donné envie de découvrir ce qui l'intéressait. Voilà, donc ça m'a donné envie de découvrir le personnage.
Alors la question que je voudrais te poser, c'est parce que je lui ai demandé un petit peu comment s'était passée son enfance. Il m'a dit que ça avait été une enfance difficile. Il est vite passé. Et j'ai senti que je n'avais pas à insister sur son enfance. Par contre, à un moment donné, je lui ai demandé est-ce que Napoléon pourrait être une sorte de père spirituel. Il m'a dit non. Comment tu vois ça, toi ?
Moi, je pense qu'il y a une loyauté qu'il garde à son père qui fait qu'il ne pourra pas avoir un père de substitution ou une référence paternelle, ou en tout cas quelque chose qui viendrait remplacer ou se substituer à son père, parce que son père, il existe, il l'a connu, et il l'a beaucoup aimé, puisque aujourd'hui, il est décédé. Donc, je pense qu'il y a cette fidélité, cette loyauté qui fait que pour lui, ce ne sera pas possible de dire que quelqu'un d'autre ou une image différente pourrait être, autre que celle de son père, pourrait être une substitution ou en tout cas le remplacer. Mais je pense que oui, il y a une admiration, alors peut-être pas paternelle, mais en tout cas d'un personnage un petit peu supérieur, comme un jeune enfant pourrait admirer son papa parce qu'il est grand, il est fort et qu'on a envie de le prendre comme modèle. Donc je pense que oui, il y a un petit peu de ça probablement, certainement.
Et tu penses que Napoléon a aidé Marcel à se construire ?
Oui. Pas complètement, hein, mais en tout cas, ni exclusivement. Mais je pense qu'en plus, il a découvert Napoléon, puisqu'on en reparlait suite à cette émission-là hier soir, suite à un article qu'il avait lu sur une revue lambda sur le management, ou voilà, quelque chose comme ça, et où il y avait un parallèle, ou en tout cas, j'ai pas lu l'article, mais en tout cas, un lien entre le management et Napoléon, comment lui, il était meneur d'hommes, comment il arrivait à électriser ses soldats, à les amener vers un objectif et puis à réussir cet objectif.
Deux dernières questions. Comment toi tu vois Napoléon ?
J'ai un rapport assez admiratif. Je pense qu'on ne peut que être admiratif par rapport à ce personnage qui est parti de rien du tout, alors qu'arrivé dans un contexte aussi, parce qu'il arrivait dans le contexte de la Révolution française et que probablement qu'il serait né 100 ans avant, il aurait pas eu la chance historiquement de faire le parcours qu'il a fait. Mais quand même, arrivant dans ce contexte favorable, on ne peut que être admiratif de ce petit fils, on va dire, de peu de noblesse, quoi, mais en tout cas, qui d'une île en plus, qui n'était même pas au départ française, donc qui n'est même pas née en France, qui monte tout jeune dans une école militaire en France, avec son accent corse, son patois, et puis qui sait saisir les opportunités qui se présentent à lui pour arriver quand même empereur d'un empire assez extraordinaire. Donc oui, je suis forcément admirative. Après, faut pas non plus être béat d'admiration et cacher les aspects un peu plus noirs du personnage, une certaine peut-être mégalomanie ou un autoritarisme peut-être trop important. Mais non, admiratif par rapport au parcours, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à l'œuvre qu'il a laissée aujourd'hui, hein, le code civil, le découpage administratif, les départements, etc. Donc oui, une admiration, mais pas béate.
Et dernière question en forme de boutade, est-ce que Marcel t'a déjà appelé Joséphine ?
Oui, ça m'est arrivé en rigolant, mais je préfère Joséphine que Marie-Louise. Donc ça ne m'a pas gênée.
Ah, si vous n'aviez pas été mariée, j'aurais fait de vous.
Quoi donc ?
Le Napoléon du cheveu.
Le Napoléon du cheveu ? En fait, pourquoi a-t-il divorcé Napoléon ?
Parce qu'il n'avait pas d'enfant.
Moi non plus, je n'ai pas d'enfant.
Alors là, maintenant, je vais te proposer de faire un petit exercice, Marcel. Imagine que tu aies à faire une conférence pour présenter Napoléon. Est-ce que là, tu pourrais te lancer en quelques minutes ?
Oh, ça me paraît un peu difficile de résumer sa vie.
Allez, lance-toi, Marcel, lance-toi. Chauffe, Marcel, chauffe.
Les plus gros traits,
sa naissance, voilà.
Né le 15 août. Donc, pendant un moment même, je me suis demandé si le 15 août était férié parce que c'était le jour de sa naissance. Blague à part, oui, il est bien né le 15 août 1769. Ajaccio, et puis il est parti à l'âge de 6 ou 7 ans sur Paris. Son père l'a envoyé sur Paris à l'école, et donc ce qu'il a pas eu, je pense, une enfance très heureuse, et ça a forgé son caractère, et tout le monde se moquait un peu de lui parce qu'il avait un accent corse, et les Parisiens n'aimaient pas trop, donc il mettait un peu à part, et à chaque fois il fallait qu'il sorte ses points pour montrer quand même que voilà, le petit Napoléon, c'était pas que un petit enfant, c'était aussi quelqu'un qui savait se défendre et quelqu'un qui avait de la place à prendre, quoi.
Sa famille bourgeoise, noble ?
Pas très bourgeoise. Son père était un petit avocat. Sa mère était une femme à la maison, avec tous les enfants qu'elle avait. Donc, il fallait qu'elle s'en occupe. Et puis, il y avait de l'argent, mais pas tant que ça. Vraiment, c'était vraiment ce qu'il fallait pour vivre, mais c'était pas au-delà de ça. C'était pas vraiment une famille bourgeoise. On peut pas dire que c'était une famille bourgeoise.
Donc il l'envoie à l'école militaire, et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui ?
Bah, une fois qu'il arrive à Paris, il suit l'école militaire, il fait quelques petites batailles, il repart à Ajaccio, il revient, il s'engage là cette fois-ci pour l'armée d'Italie, et puis c'est à partir de là que tout se déclenche, quoi.
J'ai demandé à Marcel de nous raconter la vie de Napoléon, et c'est pas aussi évident que ça de transmettre sa passion. Vous qui écoutez cette émission, vous avez l'habitude peut-être d'écouter des historiens, des conférenciers, qui vont vous parler de tel ou tel sujet. Marcel connaît énormément de choses sur Napoléon. Il n'est ni conférencier, ni historien. Il n'a pas l'habitude non plus de parler de cette passion. Aussi, parler devant un micro ne m'est pas très à l'aise, et c'est un exercice assez délicat. D'ailleurs, écoutez un petit peu plus loin, il va nous le dire. Je vous propose de faire un saut dans la vie de Napoléon, puisque nous allons maintenant parler de Sainte-Hélène. Car le plus important dans cette émission, ce n'est pas Napoléon, c'est Marcel.
Sainte-Hélène, c'était la fin. C'était effectivement, il avait quelques personnes autour de lui qui sont restées très proches. Mais c'est vrai que les Anglais, en gros, l'emprisonnaient complètement. Il était épié des faits et gestes qu'il pouvait faire, donc il n'était pas complètement libre. Et comment est placée Sainte-Hélène, c'est vrai que c'est difficile à partir de là-bas, de s'évader. Donc je pense qu'il y a réfléchi peut-être une ou deux fois, mais c'était impossible pour lui de partir de Sainte-Hélène.
Comment toi tu vis la fin de Napoléon ? Est-ce que tu aurais aimé que ça soit une autre fin ? Est-ce que cette fin t'attriste ?
Pas trop. Je pense que la fin aussi contribue à la mémoire du personnage. C'est-à-dire qu'il serait revenu, il aurait peut-être réussi à se sauver de Sainte-Hélène, il aurait peut-être fait autre chose en France, il aurait peut-être repris le pouvoir ou pas, on ne sait pas trop. Même si on peut toujours faire des séries sur ce type de truc, il y a même des livres qui sont écrits sur qu'est-ce qu'il aurait fait Napoléon s'il serait reparti de Sainte-Hélène. Mais je pense que ça contribue à sa mémoire de mourir comme ça, emprisonné comme une espèce d'esclave, prisonnier à vie. Ça contribue à sa mémoire, ça contribue à la grandeur du personnage. On se dit, ouah, le pauvre, et tout ce qu'il a vécu, il est resté là-bas. Je pense que non, ça m'attriste pas plus que ça.
Ça veut dire que un homme qui a atteint les sommets dans la hiérarchie, un homme qui détient tous les pouvoirs, parce que c'était l'homme le plus puissant du monde à cette époque-là, le fait qu'après il vive la déchéance, ça le rend plus humain ?
Peut-être plus humain, oui. Et puis, du coup, on a un peu plus de compassion pour un type comme ça, pour des gens qui ne l'aimaient pas, par exemple. Je pense que, vu la vie qu'il menait sur la fin, très triste quand même, enfermé sur une île avec très peu de choses autour de lui, plus d'enfants, plus de femmes, plus rien. Donc je pense que effectivement ça donne un côté très humain et un côté où on compatit pour toute la douleur et la souffrance qu'il a pu vivre sur cette île.
Est-ce que c'est aussi l'homme du peuple qui arrive au pouvoir et le pouvoir le rejette à la fin, donc quelque part il restera homme du peuple et ça le rapproche des Français et de tout le monde?
Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça, oui, parce que homme du peuple, il était resté surtout au retour de son corps de l'île de Sainte-Hélène. Effectivement, tout le peuple était là pour l'accueillir à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand il est arrivé aux Invalides, au tombeau des Invalides, ben, dès son retour, même si le personnage était déjà plus là physiquement et était déjà mort, c'est vrai que c'est quelqu'un que, ben, du coup, qui faisait partie de notre histoire. Donc il y a eu un déclenchement de foule énorme, il paraît, à ce moment-là.
On parle des Invalides, toi tu vas régulièrement aux Invalides ?
Non, du moins oui et non, je dirais. Non, dans le sens où j'y vais pas vraiment pour voir Napoléon, et oui, dans le sens où, parce que j'ai du boulot juste à côté, donc effectivement, je me rends souvent aux Invalides. Et donc, effectivement, quand je passe devant, je pense forcément à Napoléon et je regarde vers les Invalides.
Alors moi, je vais te dire une histoire qu'on m'avait racontée, j'étais enfant. Alors je ne sais pas si elle est vraie. Paraît-il que Napoléon aimait les odeurs très fortes et qu'il demandait à Joséphine de ne pas se laver. Je ne sais pas si à l'époque, d'ailleurs, l'hygiène était la même qu'aujourd'hui. Mais à tel point, c'est que lorsque Napoléon dormait, on lui mettait un camembert qui pue devant le nez, devant son nez, et là, il disait « Non, non, pas ce soir, Joséphine, pas ce soir. » Est-ce que ça, tu confirmes ou c'est...
Écoute, franchement, non, je ne l'ai jamais entendu.
T'as jamais entendu cette histoire? Mais tu vois ce genre d'histoire, ce que tu en connais.
Peut-être oui comme ça, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est toujours impressionnant de parler devant un micro et ouais, de se remémorer tout peut-être 5 minutes après avoir coupé le micro et puis en ayant respiré un bon coup, je peux retrouver toute l'histoire, la raconter de A à Z ou d'autres périodes croustillantes mais comme ça c'est un peu difficile à sortir.
Ok, c'est pas grave du tout. Bon, on a parlé de Napoléon, là, toi tu as une admiration devant cet homme, tu as dit peut-être même le fait qu'il finisse sa vie de cette manière à Sainte-Hélène, ça lui a permis d'être aimé un peu de tout le monde, mais en fait il y a plein de gens qui détestent Napoléon, il y a plein de gens qui... c'est pas un personnage qui fait l'unanimité, il y a plein de gens qui le... Il était quand même surnommé l'ogre, c'est quand même quelqu'un qui a... Dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'il a, dans toutes ces batailles, eu 10 millions de morts. C'est quand même quelqu'un qui a entraîné derrière lui la mort. Beaucoup de personnes disent que Napoléon était un fou furieux.
On peut l'aimer ou le détester, c'est sûr. Mais on ne peut avoir que de l'admiration, du moins, pas vraiment le mot admiration, mais reconnaître que ce qu'il a fait... C'est quand même grandiose, c'est quand même un grand homme. Après, on aime, on déteste, mais toujours est-il qu'on ne peut reconnaître que ce qu'il a fait. Il y a quand même énormément de choses qui ont été faites par ce personnage, qui sont quand même à lui attribuer et dire, bah, effectivement, on ne l'aime pas parce que, bah, effectivement, sur ses batailles, il a perdu pas mal de personnes. Il a été certaines fois... pas très sympathique, si on peut dire, en lâchant quand même, en voulant tuer comme ça au canon, vis-à-vis des gens en face du peuple, mais...
Quand tu dis, excuse-moi, je te coupe Marcel, mais quand tu dis pas mal, c'est 10 millions.
Oui, j'en suis conscient, mais ce que je veux dire par là, c'est que... On ne peut que lui attribuer quand même le sens de la grandeur du personnage. Après, on peut ne pas l'aimer. On dit, voilà, c'était quand même quelqu'un qui a tué énormément de personnes, qui a fait la guerre à tout va. Mais on ne peut pas retirer du personnage ce qu'il était.
Tu Donc là, oui, Marseille, je vais un peu te titiller, mais la fin justifie les moyens, c'est-à-dire que peu importe le nombre de morts, du moment que la grandeur du personnage est présente.
Pas tout le temps, parce que je suis peut-être pas forcément à 100% partout derrière avec lui, mais des fois, oui, effectivement, il faut savoir avoir des morts dans son équipe. Donc là, c'était pas vraiment une équipe, c'était plus une armée, mais voilà, pour pouvoir réussir à faire quelque chose de sa vie, il faut être prêt à combattre et donc à accepter les risques qui vont avec.
Tu es déjà allé à Ajaccio ? Sur les pas de papa ?
Non, pas encore. Ça devrait pas tarder, mais pas encore.
C'est un projet, tu as envie de faire, je ne veux pas dire un pèlerinage, mais tu as envie de faire ce voyage parce que Napoléon vient d'Ajaccio ?
Les deux, parce que Napoléon vient d'Ajaccio et en même temps parce que c'est une île qui est magnifique. Il y a pas mal de monde autour de moi qui ont été récemment et dont des amis qui y vont tous les ans. Donc on s'est dit qu'on irait, oui, effectivement, là-bas. Et puis bah, tant qu'à être en Corse, bah, forcément on ira voir les pas de papa.
Napoléon est le Français le plus connu au monde. C'est, si on demande à un étranger, citez-nous un Français, ça va être Napoléon, peut-être aujourd'hui Zidane, mais quand même, dans quelques années, Napoléon reprendra le dessus sur Zidane. Comment se fait-il que même les étrangers s'intéressent à ce personnage Napoléon ?
Bah, je pense que c'est par rapport à la grandeur d'esprit qu'il avait, l'intelligence d'essayer de fonder comme une pré-Europe de l'époque, et par l'intelligence qu'il avait sur tout ce qui était mise en place de tactiques militaires. Encore ces tactiques aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, sont apprises dans certaines écoles.
Mais alors moi qui ne connais pas vraiment Napoléon, hein, je fais cette émission, c'est pour toi, parce que toi tu t'intéresses à Napoléon. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi des étrangers, mais je pense... Il n'y a même pas que des militaires qui s'intéressent à lui. Je pense qu'il... Napoléon, la dernière fois, je suis allé dans une librairie, en histoire, il prend un pan de la librairie, c'est énorme. Et c'est écrit par des étrangers, c'est écrit par... Au-delà du fait que ça soit un stratège exceptionnel, est-ce qu'il y a autre chose qui se dégage de ce personnage ?
Oui, c'est une espèce de grand homme pour pas mal de personnes. Je pense que, comme je disais au tout début de l'émission, c'est quelqu'un qui a su faire quelque chose en partant de pas grand-chose. Donc on se dit comment il a fait et on s'intéresse vraiment à tous les points de sa vie. aussi bien militaire que personnel, que toutes sortes. Et c'est pour ça que on met ce personnage très haut au-dessus de nous, parce que il est devenu tellement grand qu'on se dit comment il a fait, quoi. Donc tout le monde s'intéresse un petit peu à lui, en bien, en mal. Après, il y a des critiques, mais on ne peut lui ôter le personnage qu'il était. Donc, c'est-à-dire réussir avec pas grand-chose à partir et à être empereur des Français, ce qui n'était pas rien quand même, parce que ça représentait énormément de pays. Parce que quand il est parti, par exemple, en Russie et qu'il avait énormément d'hommes, il y avait des Polonais avec lui, il y avait des Allemands avec lui, il y avait des Autrichiens, donc il y avait énormément de monde, d'Italie ou autre, et c'est quand même quelqu'un qui fascinait tout le monde, quoi. Dès qu'on passait à côté de lui, il fascinait, la personne s'arrêtait et voyait Napoléon, c'était comme un deuxième dieu. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, le deuxième homme le plus connu après Jésus-Christ, on dit c'est Napoléon.
Ah ouais.
Ouais.
Vous savez que j'ai acheté tous les livres sur la vie de Napoléon ? Oh, quelle existence prodigieuse! Il me plaît beaucoup, moi, ce petit tendu.
Mario, la femme de l'empereur est là.
Joséphine?
Mais non, l'impératrice d'Afghar.
Ah, Joséphine. Permettez, Denise.
Oh non, je ne céderai pas ma place pour un empire.
Quelle était la relation que Napoléon avait avec Dieu?
Je crois pas que fût trop bonne la relation avec Dieu, c'était pas trop son truc, mais maintenant la promenade, c'est qu'il a fait pas mal de pieds de nez au pape Pie VII quand il a voulu normalement c'était le pape qui couronnait la personne, lui en tant qu'empereur, il est arrivé, il a pris sa couronne et il se l'est mis lui-même sur la tête. Donc déjà il a fait un pied de nez à l'église catholique à Rome, et ça a été très difficile, les relations entre le pape et lui-même. Et quand il est parti en Égypte, il a voulu même à un moment donné se convertir à l'islam. Mais quelque chose qu'il a très vite abandonné parce qu'il trouvait ça un peu compliqué. Mais bon, ça a été comme ça, je pense, une lubie. Et lui et Dieu, je pense pas que ça soit une grande histoire d'amour.
Est-ce qu'il faisait la différence entre la religion et Dieu ?
Je pense pas. Je pense que là-dessus, il n'était pas trop religion et je pense que ça l'agaçait plus qu'autre chose.
Je croyais que Napoléon avait compris que la religion fédérait le peuple.
Oui, sur certains aspects, il était d'accord avec ça. Et je pense que c'est pour ça, notamment quand il est en Égypte, qu'il l'a fait croire, ou alors est-ce que c'était vraiment une volonté réelle, qu'il a dit auprès de tout le monde, je vais me convertir à l'islam. Est-ce qu'il a trouvé que la religion pouvait emmener les gens encore plus derrière lui ? Je sais pas trop. Maintenant, je pense que au fond de lui-même, il était plus du côté athée mais il savait qu'il fallait jouer avec la religion si vous voulez emmener certaines personnes derrière lui.
Alors, je vais lire Marcel un texte qui apparemment qu'il aurait écrit à Sainte-Hélène. Alors, je sais pas si ce texte est véridique, mais voilà ce qu'il dit. Il existe un être infini en comparaison de qui? Général Bertrand, vous n'êtes qu'un atome en comparaison de qui, moi, Napoléon, je suis un vrai rien, un simple néant, vous comprenez? Je peux sentir ce Dieu, je le vois, j'en ai besoin, je crois en lui. Napoléon à Sainte-Hélène. Est-ce que ça, tu valides ce texte ou c'est vraiment quelque chose que, non, pour toi, Napoléon n'était pas croyant et...
Pour moi, je pense qu'il n'était pas très croyant, mais il y avait une certaine... partie d'un côté de lui qui faisait que peut-être effectivement, notamment par rapport à ce texte, je l'avais déjà lu aussi, et je pense que il y avait certains moments de sa vie où il a pu ou pensé être croyant et pouvoir s'investir ou s'attacher derrière quelque chose, quand je pense notamment qu'il n'était pas au haut de sa forme, donc c'est-à-dire plus empereur, donc il se raccrochait à quelque chose, mais par rapport à tous les autres personne justement qui s'accrochait à lui comme un demi-dieu, et que lui était au-dessus de tout ça, donc Il n'avait pas trop une relation, je pense, complète et puis, comment dirais-je, sur la longueur avec la religion, mais il y a eu certains hauts et bas avec cette religion.
Et puis, un homme qui est au pouvoir, un homme que tout le monde respecte, un homme que tout le monde craint, quand il est à son apogée, pourquoi croirait-il en Dieu ? Mais le même homme qui se retrouve seul, abandonné de tous, épié, esclave, comme tu l'as dit, peut-être que là, il se pose des questions.
Oui, je pense que déjà même avant Sainte-Hélène, je pense qu'il y a eu des moments de creux et des moments où il se rapprochait de Dieu. Mais effectivement, un être comme ça, si puissant, devait être loin de tout ça et à certains moments, devait se rapprocher de Dieu de plus en plus.
Tu es nostalgique de cette époque ?
Nostalgique, peut-être, ouais. J'aurais bien voulu aimer connaître un peu cette époque, même qui était très difficile à avoir un aperçu, voir comment c'était, quoi.
T'aurais aimé être un grognard de Napoléon, un grognard ou peut-être un lieutenant, faire partie de l'équipe de l'armée de Napoléon ?
Peut-être, pourquoi pas, mais grognard non, soit général ou empereur.
Ah, toi, tu veux être empereur à la place de l'empereur. Comment ta famille vit ta passion pour Napoléon ?
Bon, très bien, je pense que y a beaucoup de choses forcément où ça vient faire référence à Napoléon. Par exemple, je sais pas, mon fils dit tiens, il y a Napoléon à la télé, ils savent très bien que papa il va arriver derrière sa télé pour regarder l'émission qu'il faisait sur la Révolution. Il m'a dit bah tiens, papa, on parle de Napoléon à l'école, donc effectivement, dès qu'il y a quelque chose sur Napoléon, ils viennent me le dire.
Donc là, je suis avec Malone, c'est le fils de Marcel. Comment papa, il parle de Napoléon ?
Papa, il aime bien Napoléon. Il a presque le même chapeau chez nous de Napoléon.
Raconte-moi un petit peu chapeau, comment il est fait ?
Bah, un peu en... Il a... C'est le même, sauf qu'il n'a pas le truc qui a sur le chapeau, là.
D'accord. Et toi, t'avais un doudou, t'avais un coussin à un moment donné que t'emmenais à l'école, paraît-il. Tu te rappelles de ça ou pas ?
Oui, j'ai un coussin où il y a Napoléon et il y a la couronne. Et aussi, j'ai comme une poupée, enfin un jouet, quoi. Et ben, c'est Napoléon que papa m'a offert parce que voilà, il adorait et maintenant il m'a donné.
Et toi, tu aimes Napoléon ?
Oui. Comment il est habillé, voilà.
Mais c'est qui Napoléon ?
En l'ancien temps, c'était un empereur. Il commandait un peu. Et
là, il y a tes sœurs qui arrivent. Il y a Lou qui arrive. Viens, Lou. On est en train de parler de Napoléon. Toi, est-ce que tu aimes Napoléon, Lou ?
Oui, ça va.
Et papa, il vous parle souvent de Napoléon ?
Ça dépend des fois.
Quand
on a des leçons dessus.
Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon, dans sa vie ?
Il a été couronné empereur.
Il a fait la guerre.
Sa dernière guerre, je sais que c'est en Russie. Et tous ses soldats, ils ont été morts de froid parce qu'il faisait trop froid. Et il a été prisonnier sur une île à Sainte-Hélène. Et il a réussi à s'échapper.
Et quand même, c'est un homme fort. Napoléon.
Fort ? Pourquoi il était fort ?
Bah, il a réussi à s'échapper, il a fait la guerre, voilà.
Et vous, quand il y a un film sur Napoléon, vous le regardez avec papa ?
Oui, deux fois.
La dernière fois, il y avait un film sur Napoléon et je l'avais regardé.
Et papa, il est comment dans ces cas-là ? Il parle plus, il faut pas lui parler, il faut faire du silence, comment ?
Il regarde comme ça, personne ne parle, mais quand on ne comprend pas, il nous explique.
C'est un film pour enfants que j'avais vu la dernière fois.
Manoun, est-ce que toi, tu aimes Napoléon ?
Bah, que des fois, il a fait des choses pas bien.
Comme quoi ?
Bah, des fois, il dirigeait tout seul.
C'est pas bien de diriger tout seul ?
Oui, c'est pas bien.
C'est-à-dire, il aurait été mieux qu'il demande à d'autres personnes de diriger avec lui ?
Oui. Mais
Et puis quoi d'autre ?
C'est tout.
Nous finissons l'émission avec les enfants de Marcel. Il y avait Lou, il y avait Manon, il y avait Malone. Il y a 4 enfants, mais la 4e, qui s'appelle Claudia, est encore un peu petite pour parler de Napoléon. C'était une émission avec Marcel Pires pour Racontez-vous. À bientôt. Racontez-vous.
Racontez-vous. Une émission de Franck Dumouya et Anne-Claire Rebibeau.
Racontez-vous.